Il était il y a quelques semaines en Israël et repart bientôt pour l'Afghanistan, Kaboul. Le photojournaliste Pascal Maître nous fait le grand plaisir d'une visite dans nos studios. Bonjour Pascal Maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. 150 de vos photos sont exposées en ce moment dans l'Arche du photojournalisme dans le quartier de la Défense à Paris pour présenter 40 années de reportages photographiques. Une rétrospective en quelque sorte, nécessairement douloureuse parce qu'il faut faire des choix.
Oui, c'est toujours difficile, mais bon, lorsqu'on a la chance d'exposer dans un tel lieu que l'Arche de la Défense, et c'est vrai, lorsque Jean-François Leroy et Delphine Lelu, qui sont les directeurs artistiques, m'ont demandé de faire cette exposition, au début j'étais un peu inquiet parce que c'est un immense endroit. Et qu'est-ce que l'on peut exposer? Je voulais pas faire uniquement une rétrospective puisque j'ai encore envie de travailler. C'est pas terminé.
Vous avez de longues années devant vous.
Et j'ai choisi des thèmes sur lesquels j'ai travaillé assez longuement.
Voilà, un vaste endroit qui permet de faire de grands tirages et vos couleurs, la puissance des couleurs n'en ressort que davantage. 150 photos regroupées par zone géographique, beaucoup d'Afrique qui est votre continent d'adoption selon l'expression consacrée. Vous vous sentez comme un raconteur d'histoire, Pascal Maître. Vos photos racontent en couleurs tout ce qui ne peut se dire qu'au moyen du silence, comme le disait le poète Louis-René Desforêts.
Oui, je sais, c'est vrai que la couleur m'intéresse. Bon, avant tout, je suis photojournaliste, c'est-à-dire avant tout, je suis journaliste.
Mais avec une grande technique,
Oui, bon.
Vous reconnaissent tous vos pères.
Oui, ils sont gentils. Mais c'est vrai que la couleur m'a toujours passionné et j'ai souvent essayé d'aborder la photographie en couleur plus sur un côté créatif que simplement d'illustration. Des fois, ça marche, pas toujours.
Alors, si vous voulez bien nous raconter quelques-unes de ces histoires, peut-être d'abord la plus connue, parce que beaucoup de nos auditeurs ont sans doute déjà vu ces photos que vous avez faites avec le commandant Massoud, en pleine sieste en haut des dunes afghanes, le bras droit plié sous la tête, mais la main gauche qui tient une radio, la jambe gauche nonchalamment reposée sur la cuisse droite, et puis son pacole, son chapeau de laine beige incliné sur la tête. Nous sommes en 98. Racontez-nous cette rencontre.
Cette rencontre, je vais plutôt parler précisément de cette journée-là. On était à Talokan, qui est une ville dans le nord de l'Afghanistan. Il y avait un cessez-le-feu et les talibans ont rompu dans la nuit le cessez-le-feu. Donc un hélicoptère nous a pris, le commandant Massoud, deux aides de camp et Vincent Hugeu de l'Express avec qui je faisais ce reportage et moi-même. Et on nous a déposés sur un piton juste au-dessus de la ville et le commandant Massoud pendant la journée a repris la ville. Et au tout début de la bataille, il parle au talkie-walkie à son commandant qui est en bas dans la vallée et on entend un cri à la Wakbar du commandant, une énorme explosion. Donc on comprend que malheureusement il est arrivé quelque chose au commandant qui est en bas. Et à ce moment-là, Massoud essaie de reprendre le contact et silence, silence. Et je fais la photographie qui est la plus connue de dos, il tourne en attendant de savoir ce qui est arrivé à son commandant. Et soudainement, le commandant réapparaît. À ce moment-là, Massoud pose tout, commence à prier. Et puis, il reprend la bataille, il reprend la ville. Et quand tout est fini, il s'allonge sur cette petite butte. Et c'est à ce moment-là que je fais la photo en attendant l'hélicoptère qui va nous reprendre.
Et vous retournez en Afghanistan bientôt. Vous y êtes allé entre-temps parce que le pays a évidemment énormément changé.
Oui, j'y suis allé de 98-2000 pendant la période taliban. J'y suis allé la dernière fois en 2010. Et je retourne à Kaboul la semaine prochaine.
Alors, cette exposition relate aussi et rend compte de vos multiples voyages en Afrique, vos séjours par exemple en Afrique des Grands Lacs, on parlait de silence, c'est le poète Louis-René Desforêts qui parlait de silence, le silence de l'Afrique des Grands Lacs, on l'entend presque dans vos photos.
Oui, alors c'est vrai, il y a très longtemps, la première fois que je suis allé au Rwanda, au Burundi, je travaillais pour Jeune Afrique, c'est en 1980, et on ne parlait pas du tout de cette région, ni de ces pays. Mais c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué. Il y a toujours un immense silence. Il n'y a pas du tout cette ébullition de vie, de musique. Et c'est un monde plus étrange, qui est très différent du reste de l'Afrique, qui a une géographie extraordinaire, d'une beauté. On le considère comme la Suisse de l'Afrique, avec des montagnes, des paysages exceptionnels. Mais en même temps, une région qui a tellement souffert.
Un territoire marqué par des décennies de conflits et par un génocide. 5 millions de personnes y ont péri depuis 1994. Et votre rôle, peut-être ou pas, nous direz-vous, de photojournaliste, c'est de donner une humanité, un visage à cette histoire douloureuse. Et alors, dans cette exposition, elle ne figure pas, mais c'est un peu comme si elle était là par contumace, entre guillemets. Mais cette personne que vous, à qui vous avez consacré un livre, Marguerite Baron-Kitze, dite Maggie, elle est toujours un peu là. Qui est-elle ?
Oui, alors Maggie, malheureusement, est... Alors, Maggie est une princesse burundaise et qui, au moment des pires moments, 97-98 au Burundi, décide de créer un orphelinat. Elle va sur les lieux de combat et elle récupère les enfants abandonnés. Elle crée cet orphelinat où des enfants Hutus et Tutsis vivent ensemble. Et elle part du principe que s'ils commencent à vivre et à se sauver ensemble, peut-être que ça facilitera la suite dans cette région. Alors elle crée un orphelinat au départ qui est tout petit, elle a quelques gamins, elle a pas de moyens, elle déchire les rideaux de l'évêché pour habiller les enfants, ainsi de suite. Et puis tout doucement, elle va créer toute une ville. À Rouyengui, qui va être avec 500 villas pour les enfants. Elle aura de nombreux prix, mais malheureusement, récemment, tout a été détruit et elle a dû quitter le Burundi, aller actuellement au Rwanda, parce que le gouvernement n'a pas supporté ses prises de position politique, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Je vais raconter juste une anecdote.
Allez-y.
Un jour... La rébellion a voulu la tuer, donc on a envoyé un tueur. Elle lui dit, écoute, c'est pas grave, mais toi, toute ta vie, tu vas t'en rappeler. Donc avant de me tuer, on va prier ensemble. Elles ont prié, elle a retourné le gars, il est devenu son chauffeur et garde du corps pendant des années. Mais c'est quelqu'un, pour moi, c'est sans doute la personne en Afrique qui m'a le plus marqué. De par sa générosité, de par son engagement, de par son courage. Et oui, elle a construit une ville entière, hôpital, cinéma. Et tout ça à partir de rien. Et pour ses enfants, les enfants avaient les droits sur leur maison, avaient les droits de la terre de leur petite maison. C'est vraiment un grand, grand travail. Et c'est très triste de voir qu'aujourd'hui, tout ça a été remis en question. Mais je l'ai eu au téléphone récemment, elle m'a dit, mais c'est pas grave, je vais recommencer, je vais reconstruire.
On n'en doute pas, vous entendant, on n'en doute pas qu'elle va reconstruire. Un dernier arrêt, Pascal Maître, sur un pays où vous êtes allé à plusieurs reprises, 97, 2010, vous êtes retourné il y a 2 ans, Madagascar. C'est une île insolente de beauté et de pauvreté, de douceur et de violence, de couleur et de douleur. Écrivez-vous.
Oui, c'était. Alors, Madagascar, c'est un écrin incroyable. Effectivement, de beauté. Effectivement, la nature est incroyable. Les gens sont d'une extrême douceur. Et en même temps, il y a une immense violence parce qu'il y a une injustice crasse. C'est-à-dire, c'est un pays qui a énormément de ressources et qui est pillé sans cesse, sans cesse. Lorsque l'on sait que le salaire minimum, c'est 25 euros par mois et qu'il y a les 60% du saphir actuel produit au monde vient de Madagascar, tout le bois de rose a été pillé, il y a de l'or, il y a plein de ressources, la vanille, et malheureusement les malgaches en profitent très peu. Il y a juste une petite partie des malgaches qui en profitent. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression que ce pays s'est arrêté en 1960. Je donne toujours un exemple qui peut paraître invraisemblable. La dernière fois que j'étais à Madagascar en mai, j'ai vu un parking de 15 voitures qui étaient des taxis. C'était des 2 chevaux. Est-ce que vous avez un autre endroit au monde où vous allez voir 15 2 chevaux garés et qui roulent toujours?
Ça fait penser à ces lignes d'Albert Londres dans Terre d'Ébène. Alors c'était en 1929. D'où sort ce que l'on vend aux pauvres nègres, écrivait-il, des ciseaux dont les branches ne se touchent pas, des couteaux qui ne coupent pas, des miroirs qui ne reflètent pas, des savons qui ne savonnent pas, et l'on pourrait aller jusqu'à dire des flûtes sans trous. Où sont ces usines sournoises qui travaillent à mal travailler parce que c'est assez bon pour toute une partie de la terre? Et on le voit, on l'entend dans toutes vos photos, celles aussi que vous avez faites en République démocratique du Congo dans les usines de traitement d'huile de palme. Alors le ton d'Albert Londres ne convient peut-être pas à vos photos, il est toujours plein d'ironie. Le ton de vos photos, c'est plutôt Conrad, au cœur des ténèbres.
Oui, je sais pas. Bon, moi, le ton de mes photos, c'est ce que je ressens. Donc, pour moi, c'est assez simple. J'ai voyagé sur le fleuve Congo, qui est un immense fleuve, qui est effectivement toujours un peu le cœur des ténèbres.
Albert Londres aussi avait remonté le fleuve Congo. Joseph Conrad, c'est votre référence littéraire, vous en parlez souvent. Des convois de barges rouillées écrasées par la puissance du fleuve Congo, cette lenteur aussi. Est-ce qu'on a encore le temps d'être lent quand on est aujourd'hui photojournaliste?
Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille pour des magazines, que ce soit National Geographic, Géo, Paris Match, Figaro Magazine, qui me donnent les moyens de travailler longuement. Je sais que c'est un privilège, c'est rare. L'économie de la presse, malheureusement, on sait qu'elle est plus aussi florissante. Mais sur le fleuve Congo, j'ai eu la chance de faire 4 voyages d'un mois pour National Geographic. Donc j'ai pu avoir le temps de passer un peu plus loin une caricature. Évidemment, le temps, c'est un luxe, mais il permet aussi de démonter, d'expliquer et de donner plus d'éléments pour, une fois tout cela empilé, donner une radiographie de quelque chose, d'un espace, d'un endroit.
Alors, pas de doute, Pascal Hamed, vous vous sentez concerné dans des pays qui souffrent. Comment vous êtes considéré quand vous arrivez avec votre appareil photo? Comment se passent aujourd'hui les relations? Est-ce que ça a changé depuis que vous exercez votre profession?
Je dirais, ce qui a changé, c'est il y a un peu plus de complications administratives et il y a un peu plus d'embûches au niveau des autorités, souvent. C'est un peu plus compliqué. On a toujours le sentiment qu'il y a moins de respect par rapport à la presse, aux journalistes, aux photographes. Après, il faut bien voir que je débarque pas comme cela. Souvent, on prépare les reportages et évidemment, on travaille avec des fixeurs qui sont un peu nos yeux, nos oreilles, nos amis, nos contacts, et qui nous permettent de rentrer dans les sujets, de rencontrer les gens. Et surtout, je pense, lorsque vous expliquez aux gens ce que vous faites et pourquoi vous le faites, les choses sont déjà beaucoup plus simples.
Et grâce au fixeur, vous pouvez communiquer, vous pouvez parler. Le fixeur qui parfois vous sauve la vie. En Somalie, par exemple, vous avez failli être
kidnappé. Oui, alors la Somalie, c'est un pays compliqué, dangereux, assez risqué. Donc j'y travaille depuis une quinzaine d'années. Je suis allé une dizaine de fois. Et je travaille toujours avec Adjos Sanoura, qui est, au fil des années, évidemment, est devenu un ami. Et un jour, en 2011, on était dans un hôpital. Et c'est une période terrible où sont morts des milliers d'enfants, et un petit garçon venait de mourir devant nous, et les parents étaient des gens qui venaient de l'intérieur, ils n'avaient pas de moyens de retourner dans leur camp de déplacés, donc on leur a offert la possibilité de les transporter jusqu'à ce camp de déplacés. Et donc la maman a transporté le corps de l'enfant, j'étais avec un collègue, un journaliste de l'AFP colombien, et puis on a marché dans le camp, et à un moment Adjos m'a dit, écoute Pascal, on s'en va, vous savez les photographes on n'a jamais fini, on veut faire mieux, blablabla. Donc j'insiste, je continue, il me dit non, cette fois on part. Et puis bof, on part, et là je lui demande, mais pourquoi tu m'as dit d'arrêter? Il dit, tu as vu le gars qui était derrière nous, un gars qui avait des béquilles? Je lui dis, oui, il nous a suivis, je sais pas. Il m'a dit, écoute, lui, il est kidnappeur, il a installé une cache chez lui, il a déjà kidnappé des hommes d'affaires, somaliens, tout ça. Puis il m'a demandé, écoute, tu nous amènes des nouveaux moutons? Alors je lui dis, ah bon, pourquoi? Il m'a demandé, mais ils sont de quelle nationalité? Et Adjos a eu cette réponse extraordinaire. Il a dit, ils sont roumains, puis tu sais, les roumains, c'est comme les bêtes crevées, personne ne les réclame. Alors je lui ai dit, mais pourquoi t'as dit ça? Mais il dit, tu sais que durant Restorop, il y a eu, pas un contingent, mais certains militaires roumains, et toute la population a vu qu'ils étaient si pauvres, ils n'avaient même pas de bonbons pour les enfants. Donc c'est resté dans l'imaginaire public. Donc en lui disant ça, j'étais sûr qu'il allait nous laisser repartir.
Vous l'intéressiez plus.
Voilà, j'avais plus trop de valeur. Et puis il a fini la conclusion en disant, écoute, on reviendra cet après-midi, on s'est D'où l'importance du fixeur et de l'intelligence.
Alors c'est moi qui vous le fais raconter, mais évidemment vous n'en faites pas un fait de gloire, ni non plus des dangers que vous prenez en allant prendre des photos. Ce qui vous intéresse, c'est ce dont vous témoignez aussi. Les photos ne sont pas que des archives, au contraire de ce que prédisait Baudelaire, qui a vécu les premières années de la photo. Elles ne sont pas les simples témoins d'un événement, elles portent un regard sur l'événement. Et qu'est-ce qui vous traverse, vous, aujourd'hui, Pascal Maître, quand vous prenez ces photos ?
Alors ce que j'essaie d'être le plus sincère et de transcrire ce que je ressens, de pouvoir faire passer ces rapports humains, de pouvoir faire passer ce qui s'y passe et de raconter des histoires, de vraiment faire mon travail de photojournaliste.
Comme on demande souvent aux photographes, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la photo et qui vous a offert votre premier Rolleiflex ? Parce que c'est toujours comme ça qu'on commence une histoire de photographe.
Alors, le goût de la photo, ça me travaillait. Alors, c'est parti d'un truc, je trouvais ça assez magique. Et quand j'étais gamin, moi je viens du Berry, ma mère m'envoyait acheter des pâtes. Il y a une marque de pâtes dont je ne me rappelle pas, mais il y a le cadeau à l'intérieur de la marque de pâtes, c'était une diapositive. Et alors je regardais, je voyais le Kenya.
Les temps ont changé.
Oui. Et alors c'était une diapositive. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde le monde à travers une diapositive qui était toute petite, ça a dû m'agiter énormément. Et par la suite, j'ai eu la chance. Moi, je viens donc de la région de Châteauroux.
Buzançais,
ouais, dont je suis très fier. Et il y avait une base américaine. Et donc, deux de mes tantes se sont mariées à des militaires américains. Et un de leurs maris m'a offert mon premier Rolleiflex quand j'avais 14-15 ans. Donc, du rêve, j'ai pu commencer à pratiquer.
Et vous commencez avec une première exposition sur les gitans de Châteauroux. Vous êtes à l'époque fasciné par les photos de Joseph Koudelka.
Oui.
Ouais, vous avez quelques mètres, pas beaucoup en photo, vous en avez...
Ouais, Koudelka, bon, encore aujourd'hui, son travail sur le gitan reste un travail exceptionnel. J'ai évidemment, comme tout photographe, bien aimé Cartier-Bresson. Mais en couleur, vraiment, ma référence, c'est William Albert Allard, qui est un photographe américain qui a beaucoup travaillé pour le National Geographic, qui a une maîtrise de l'empathie et un aspect humain. Donc tout ça... C'est assez magique.
Henri Cartier-Bresson, qui, d'après ses proches, alors qu'il a parcouru la Terre entière comme vous, et qui, d'après ses proches, était quand même travaillé par un profond désir de retour. D'ailleurs, on dit qu'au début des années 30, il était malade en Côte d'Ivoire, il pensait qu'il allait y mourir, et il se préoccupe avec passion de faire rapatrier sa dépouille dans le domaine familial de la vallée de la Varenne. Bon, je ne fais pas de comparaison malheureuse, mais en tout cas, est-ce que vous vous sentez traversé par un profond désir de retour à chaque fois ? Revenir quand même au point de départ ?
Oui, pour moi, c'est important. Plusieurs on m'a dit, mais pourquoi je ne suis pas allé habiter en Afrique ? Pourquoi ? Mais j'ai besoin de ce retour parce que lorsque je fais un reportage, c'est comme une plongée. C'est-à-dire, je vais y être consacré, mais quand je remonte, je n'y suis plus du tout. Donc ça me permet peut-être de garder les pieds sur terre.
Cartier-Bresson, qui était aussi un photographe du hasard, il lui arrivait souvent, d'ailleurs sans le savoir, de capter l'instant même où l'histoire bascule, comme cette ultime photo de Gandhi assassiné une heure à peine après la séance de photos qu'il lui avait accordée, ou encore les derniers moments de la Chine d'avant Mao. À la différence près, et c'est une lapalissade, que les photos de Cartier-Bresson sont aujourd'hui la trace d'un monde qui a disparu, les vôtres sont celles d'un monde tel qu'il va encore et qui va pas très bien d'ailleurs, et tel qu'il ne cesse d'aller en fait.
Qu'il ne cesse d'aller, mais pour revenir à cette idée, je pense, plus je vieillis, fondamentalement, que le rôle principal de la photographie, c'est son rôle quand même dans l'histoire historique. Et que ce que l'on fait tous, nous, ça sera une trace pour sans doute les générations futures de ce qu'a été le monde dans cette période-là. Et ça, c'est l'essentiel.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler avec nous, Pascal
plaisir.
Maître. Merci beaucoup. Seulement humain, votre exposition de 40 années de reportage photographique est donc à retrouver dans l'Arche du photojournalisme dans le quartier de la Défense à Paris. Et c'est jusqu'au 11 octobre prochain. D'ici là, vous serez reparti à Kaboul, en Afghanistan, et vous nous rapporterez des photos de votre voyage. Merci beaucoup, Pascal Maître, d'être venu ce matin dans le studio de France Culture.
Merci.